بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Nous allons donc, inshallah, avec l'aide d'Allah Ta'ala, poursuivre traduction et commentaire de quelques versets du Coran Sharif. Et nous sommes donc au 11e sipara, au 11e juz, dans lequel Allah Tabarak wa Ta'ala poursuit et termine la sourate Tauba. Et on avait évoqué que dans cette sourate Tauba, Allah Tabarak wa Ta'ala, il parle des Sahaba radiallahu anhum, et plus particulièrement, c'est-à-dire dans le 11e sipara, c'est une suite. Allah Ta'ala, il évoque et il aborde l'événement de Tabouk, la guerre de Tabouk. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhum ont dû parfois faire face aux attaques des ennemis, et il faut savoir que surtout pour ceux qui portent cette critique sur l'islam, que l'islam est une religion qui a été propagée par la violence, que les sahaba radiallahu anhum, les compagnons, pendant toute la période mécoise, ils n'avaient pas le droit de se défendre. Ils n'avaient pas le droit de combattre l'ennemi, et ils ont dû subir pendant 13 ans que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait aucunement le droit d'aller combattre, aucunement, même pas de légitime défense, il n'avait pas le droit de faire ça, parce qu'Allah tabarak wa ta'ala n'avait pas révélé l'ordre qui lui permettait donc de se défendre. Et dans cette ghazwa et Tabouk, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle i'lan i'am. Ça veut dire qu'en temps normal, en temps général, lorsque il partait en expédition, il n'était pas obligatoire pour tous les musulmans d'accompagner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cette expédition-ci, celle de ghazwa et Tabouk, alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette annonce générale pour tous les musulmans, ce qui fait qu'il était devenu obligatoire, farz et ayn, pour chaque personne, chaque musulman, d'aller de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, plusieurs des sahaba radiallahu anhum, pour diverses raisons, ils n'ont pas répondu à l'appel du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont donc restés à Madina Munawwara. Et Allah tabarak wa ta'ala mentionne ici plus particulièrement donc le récit de ces différents groupes. Il y a certains musulmans qui, dès l'appel du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement ils ont répondu. D'autres, ils ont eu un petit doute. Min ba'di ma kada yaziru qulub fariqin minhum. Et après avoir ce petit doute, ils ont suivi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi également ont-ils eu ce doute? Hadith Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il dit que par rapport aux autres expéditions, celle-ci, elle était plus difficile. Pourquoi est-ce qu'elle était plus difficile? Parce que c'était un moment où la température, la chaleur était extrême. Il faisait extrêmement chaud. Deuxième raison, le voyage était extrêmement lointain. Troisièmement, les personnes qu'il fallait affronter, qui allaient donc attaquer les musulmans, c'était une armée qui était équipée et qui était entraînée. Et c'était la première fois dans l'histoire de l'islam qu'un tel, on va dire, affrontement allait se produire. C'était d'une telle ampleur. Et de la même manière, dans certains riwayat, on le verra, inshallah, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, c'était un moment où il était très difficile, parce qu'au niveau économique, les sahaba radiallahu anhum, ils attendaient, certains d'entre eux, le moment où il fallait cueillir les dattes. Donc si ils allaient délaisser ce moment-là, ils allaient perdre toute leur récolte. Donc par rapport à cet ensemble-là, Allah tabarak wa ta'ala a mentionné plusieurs groupes. Donc on a dit, il y a ceux qui ont tout de suite accepté, ceux qui ont eu un petit doute, il y a eu les munafiqin, les hypocrites qui ne sont pas allés, ils sont restés à Madina Munawwara. Et lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à Madina Munawwara, alors ils sont venus vers lui et ils sont venus avec des mensonges. C'est-à-dire, « يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ » lorsque tu retournes au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont venir présenter leurs excuses, et ils vont te dire: ô prophète d'Allah, véritablement nous ne pouvions pas, parce que nous avions donc des excuses valables. Il y avait un groupe effectivement parmi les musulmans, soit ils étaient trop âgés, soit ils n'avaient pas donc ces capacités là pour suivre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils avaient véritablement le droit de rester à Madina Munawwara, comme Allah tabarak wa ta'ala le dit dans la fin du 10e juz, laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-mardha, les gens qui étaient malades également, wa la 'ala alladhina la, donc ils n'avaient pas ces possibilités de suivre, eux ils avaient le droit de rester. Donc les musulmans qui ont immédiatement répondu à cet appel, ceux qui ont, on va dire, eu un moment de réflexion, les munafiqs qui sont restés, ceux qui étaient vraiment excusés, et il y avait un autre groupe de musulmans qui n'avaient pas d'excuses. Ils n'avaient pas d'excuses et ils ne sont pas partis donc dans cette expédition. Et lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, comme on a dit, les munafiqs, les hypocrites, immédiatement ils sont venus vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam présenter leurs excuses, car c'était l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait de voyage, d'abord de venir à la masjid, d'effectuer, d'accomplir deux rak'at, et ensuite d'aller chez lui. Et même plus précisément, Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi nous disait que dans son Ma'arif al-Qur'an, dans l'explication de ses versets, qu'après avoir accompli ces deux rak'at, il allait d'abord chez sa fille bien-aimée Hazrat Fatima radiyallahu anha, et ensuite il allait voir donc ses épouses radiyallahu anhunna. Donc les hypocrites, les munafiqs, ils sont venus et ils ont dit, voilà, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avions une excuse, etc., pardonnez-nous. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cela. De par sa douceur et sa gentillesse, il a accepté, il a dit, d'accord, j'accepte vos excuses, mais Allah tabarak wa ta'ala, il sait véritablement ce que vous avez fait, ce que vous aviez dans le cœur. Et Allah ta'ala, par la suite, il a révélé les ayats en disant que ces gens, ce sont donc des menteurs. Ces gens, ils sont venus à toi, ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim, qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum. Allah ta'ala m'a informé de vos situations lorsque les ayats ont été révélées, et donc Allah ta'ala a donc montré que ces gens, ils avaient menti. Et d'autres sahaba radiyallahu anhum qui n'ont pas pris part à cette expédition. Non seulement ils n'ont pas pris part à cette expédition, et lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné, ils ne sont pas venus présenter leurs excuses aussi. Et donc, ils sont restés un peu en retrait. Il y a un long récit qui est très connu dans les kitabs de Ahadith, celui de Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu anhu. Et Ka'b bin Malik radiyallahu anhu, il compte parmi les grands sahaba. Il compte parmi les sahaba qui ont fait ce qu'on appelle le Bay'ati Aqaba, c'est-à-dire qui ont fait ce serment d'allégeance avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Pour dire que donc ils allaient aider le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait aller à Madina, Munawwara, etc. Même si Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi nous dit qu'il y a eu beaucoup, il y a trois Bay'ati Aqaba qu'il mentionne, mais malgré tout, il dit le principal c'est ça. Alors Ka'b bin Malik radiallahu anhu dit que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu, et lorsque je l'ai rencontré, je ne suis pas allé m'excuser. Et là, je lui ai fait le salam, mais j'ai vu que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a répondu, mais avec le visage de quelqu'un qui était en colère. Le visage de quelqu'un qui était en colère. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après ? Il y avait lui, il y avait Murara bin Rabi'a radiyallahu anhu et Hilal bin Umayya radiyallahu anhu. Ces trois sahaba radiyallahu anhum, eux, ils n'avaient pas d'excuses et ils n'ont pas menti non plus. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour donc tenter, on va dire, d'échapper à la colère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, ces trois sahaba radiyallahu anhum là, parce que justement c'était obligatoire d'aller à ce moment-là, quand le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette annonce-là, et ils n'ont pas pris part, ils n'avaient aucune excuse, alors ils ont passé des moments très délicats. Comme on a dit, il y a certains sahaba radiyallahu anhum, ils sont venus vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à tel point ils regrettaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attachés au pilier de la masjid. Hazrat Abu Lubaba radiyallahu anhu, si je ne me trompe, c'est lui. Ils se sont attachés au pilier de la masjid et ils ont dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tant que tu ne nous pardonneras pas, alors on ne se détachera pas. Et on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui nous détache, mais on veut que ce soit toi, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous détache. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, j'attends l'ordre de la part d'Allah. Tant qu'Allah n'a pas envoyé l'acceptation de votre repentir, alors je ne vous détacherai pas. Et il est dit en ce sens que le lendemain, à la salat de Fajr, Allah ta'ala, il a accepté le pardon de ces gens-là, il les a détachés. Et ensuite, il restait ces trois autres sahaba. Eux, ils ne sont pas venus demander excuses, ils ne sont pas venus pardon. Et pendant une très longue période, ils ont vécu une scène, on va dire, très délicate pour eux. À tel point que Allah tabarak wa ta'ala, il dit, lorsqu'après, lorsqu'il raconte le récit, حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله لا إله. C'est-à-dire ils allaient penser carrément qu'à un moment où vraiment c'était très 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 difficile pour eux. À tel point que lorsque leur repentir a été accepté, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ka'b bin Malik radiallahu anhu que ça c'est le plus grand jour de ta vie depuis ta naissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils n'avaient donc pas participé, ils n'ont pas présenté leurs excuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'aucun sahaba, quel qu'il soit, la tribu, homme, femme, enfant, n'adresse la parole à ces sahaba radiallahu anhum là. Donc pendant 25 jours, dans un premier temps, ils n'avaient aucun contact, aucune relation avec les autres sahaba. On ne pouvait, on n'avait même pas l'autorisation de leur faire salam. Et Ka'b bin Malik radiallahu anhu, il disait que mes deux autres compagnons, Hilal, Murara bin Rabi'a et Hilal bin Umayya radiallahu anhum, qui étaient des grands sahaba, même si je me trompe, on dit qu'ils ont participé à la guerre de Badr. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas pu prendre part à cette expédition-là. Eux, tellement ils étaient touchés. Ils disaient, quand on parlait aux gens, les gens ne nous répondaient pas. Personne ne nous parlait, il n'y avait aucun contact. Et ils étaient tellement déprimés, tellement désespérés par cela, que toute la journée, ils restaient dans leur maison, ces deux-là, Hilal bin Umayya et Murara bin Rabi'a, radiallahu anhu, ils restaient dans leur maison, ils pleuraient toute la journée. Ka'b bin Malik, radiallahu anhu, il disait que moi, j'allais, je sentais, et j'allais faire la salat avec le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'essayais de voir, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une petite attention pour moi. Il dit que parfois, je m'approchais de lui, et j'essayais de faire la salat pour voir, est-ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me regardait, et disait, je voyais qu'il me regardait, mais dès que je tournais la tête immédiatement, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il se détournait de moi. Pendant 25 jours, ils ont connu ça. Et c'était donc très difficile, il n'y avait plus de vie en quelque sorte pour eux. Et à ce moment-là, il y a eu un autre test de la part d'Allah. Il y a même certaines personnes qui ont conseillé, on va dire, à Ka'b bin Malik, radiallahu anhu, que toi aussi, fais comme les munafiqs, fais comme les hypocrites, et va mentir. Va dire au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que non, j'avais une excuse. Mais il disait qu'au fond de lui-même, j'avais déjà fait un péché, c'est-à-dire de ne pas prendre part à cette expédition. Si je vais mentir, je vais faire un autre péché. Je ne peux pas supporter ça. Je ne vais pas faire ça et je vais attendre l'ordre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est dit donc, après avoir que ces jours se soient écoulés et donc après avoir vu ces moments extrêmement difficiles, Fath Ka'b bin Malik radiallahu anhu, après donc ces quelques jours qui étaient passés, il a vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui parlait pas, les gens ne lui parlaient pas, etc. Et cela était devenu très difficile pour eux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La sentence, elle a pris une autre dimension encore. C'est-à-dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a augmenté en quelque sorte la punition. Il a dit que maintenant, il faut que vous vous sépariez de vos épouses. Même vos femmes qui habitent avec vous, vous n'avez plus le droit de rester avec elle. Et un de ces sahaba était extrêmement âgé et il avait, c'était Hilal bin Umayya radiallahu anhu. Son épouse à lui, Khawla bint Asim, lorsqu'elle a entendu ça, elle est venue vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, Ya Rasulallah, mon mari est extrêmement faible. Il n'a personne pour s'occuper de lui et même selon certains riwayats, il ne voit presque plus. Est-ce que tu me donnes l'autorisation juste de rester avec lui dans la maison pour le servir, pour faire son service? Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, mais il ne faut pas qu'il s'approche de toi. Et des gens, ils ont dit à Hazrat Ka'b bin Malik radiallahu anhu que lorsqu'il a appris cette nouvelle, il a demandé, c'était en fait un messager du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Khuzaima bin Thabit radiallahu anhu, qui est venu annoncer ce message. Il a dit voilà, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te dit que tu dois être à l'écart, tu dois donc t'éloigner de ton épouse. Il a dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je divorce mon épouse? Elle a dit, non, ça ne veut pas dire ça, mais il ne faut pas que tu restes avec elle. Et des gens, ils lui ont conseillé aussi, regarde, comme pour Hilal bin Umayya, que le prophète d'Allah a donné l'autorisation à son épouse qu'elle reste dans la même maison, toi aussi fais pareil, c'est-à-dire demande cette autorisation. Mais il a dit, non, je ne vais pas demander ça et je vais attendre. Donc il a attendu ça. Et pendant 40 jours, cela s'est poursuivi, jusqu'à ce que, après 50 jours, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ka'b bin Malik, radiallahu anhu, il dit que j'étais assis sur le toit de ma maison et j'ai entendu quelqu'un qui est monté sur le haut de la colline et qui a lancé ce cri et cet appel, « Ô Ka'b, reçois la bonne nouvelle de ton pardon. » Après 50 jours donc, dans cette situation-là, où les gens ne pouvaient pas leur parler, les gens ne pouvaient pas, même pas leur faire salam, et il dit que même les gens qui m'étaient les plus proches de ma famille, je suis allé les voir, je suis allé parler avec eux, mais malgré tout, puisque c'était l'ordre d'Allah et du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pouvaient pas répondre à cette personne. Donc après ces événements-là, après plus de 50 jours, et certains mufassirin alayhim ar-rahma, ils disent que pourquoi 50 jours? Parce que l'expédition de Tabouk en elle-même, elle a duré 50 jours. Ça, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayh, il le dit ça à la page 483 dans son quatrième volume. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après il a mentionné le Coran Sharif, c'est-à-dire qu'il a accepté la demande de pardon de ces gens-là, de ces trois sahaba radiallahu anhum. Donc en grande partie, le premier quart, on va dire, de ce 11e sipara, il concerne ces gens-là, il concerne ces sahaba radiallahu anhum, qui ont donc vécu cette situation-là. Après, une deuxième partie qu'on peut mentionner, c'est quoi? C'est un mas'ala, on va dire. C'est à travers un ayat du Coran Sharif dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala il dit: Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas au prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Et les Mufassirin alayhim ar-Rahman nous disent que cela a été révélé à propos de Hazrat Abu Talib, l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lors de ses derniers instants, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu vers lui et a essayé de le convaincre d'accepter l'islam. Et il avait fait beaucoup de bien pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était son neveu qui était bien aimé. Il l'a protégé, il l'a éduqué, il l'a élevé. Mais malgré tout, il n'a pas accepté l'islam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est dit en ce sens dans ce riwayat, que lorsqu'il est venu, il a vu que auprès de son oncle Abu Talib, il y avait déjà les grands chefs des Quraysh qui étaient là et qui étaient en train de veiller surtout à ce qu'il ne quitte pas la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'islam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu demander pardon pour Abu Talib puisque c'était son oncle. Mais ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé ce ayat et il a dit ma kana lin-nabi, que un prophète ni même les croyants, ils n'ont le droit de demander pardon pour donc les associateurs et pour les non-musulmans, même si ce sont des gens de leur famille, après qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. On apprend donc ici, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi nous dit que lorsqu'on a la certitude que quelqu'un il a quitté cette terre sans avoir cru en Allah, sans avoir eu l'iman, la foi, alors après sa mort, on ne peut plus demander pardon pour cette personne. Tant que la personne est encore vivante, alors vous pouvez demander la maghfirat, c'est-à-dire de demander à Allah de guider cette personne. Mais à partir du moment où cette personne a quitté cette terre, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, cette personne a quitté cette terre et on a la conviction qu'elle n'a pas accepté la foi, alors on ne peut plus demander pardon, de faire dua pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne cette personne-là. De la même manière, il y a un autre ayat du Coran Sharif qui était dans le 10e sipara et qu'on était passé dessus. On n'avait pas développé, on va parler de ça. C'est quoi? C'est qu'il y a le récit d'un personnage, un ennemi de l'islam, qui avait donc quitté cette terre. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la salat de la janaza pour cette personne-là, Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était un des grands munafiques, un des grands hypocrites, qui a également commis beaucoup de torts. Lui, quand il est décédé, il avait un fils. Et son fils, qui s'appelait Abdullah, lui, c'était un musulman. Et son fils a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de venir faire la prière, la salat janaza pour lui. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Il a dit que oui, il va faire la salat de janaza. Et lorsqu'il s'apprêtait à faire la salat de janaza, Omar radiallahu ta'ala anhu, il a attrapé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vas prier pour quelqu'un qui avait donc cette maladie du nifaq, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a empêché. Allah Ta'ala t'a dit de ne pas prier là-dessus, de ne pas prier sur ce genre de personne. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, Allah il m'a donné le choix. C'est-à-dire Allah il m'a dit istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux. C'est-à-dire, soit demande pardon, ou ne demande pas pardon. Et la salat de janaza, c'est une demande de pardon. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Même si tu vas demander 70 fois pardon pour eux, Allah Ta'ala ne les pardonnera pas. Et il est dit en ce sens que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Malgré tout, il a voulu faire cette salat de janaza là. Ensuite, Allah tabarak wa ta'ala, il a révélé un autre verset pour exprimer clairement l'interdiction de faire la salat de janaza chez les gens qui sont morts sans la foi. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبَرِهِ. Et ne fait jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt et ne tient pas debout auprès de sa tombe. Et même si on va plus loin dans ce récit là, Hadith Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il nous dit que Hadith Abdullah, le fils de Abdullah bin Ubay bin Salul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam son qamis, on va dire son kurta, son vêtement. Pourquoi? Pour qu'il le prenne et qu'il enveloppe son père, qui était un munafiq, qui était un hypocrite, avec cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Il a accepté de donner ça. Maintenant, les mufassina alayhim ar-rahma, ils nous disent pourquoi. Pourquoi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cela, alors qu'on sait que cela ne changera rien à son sort? Et une des raisons qui est évoquée par Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, c'est que lorsque les musulmans avaient capturé un certain nombre de prisonniers parmi les gens des Quraysh, parmi eux il y avait Hazrat Abbas radiallahu anhu. Et Hazrat Abbas radiallahu anhu, qui était donc l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un d'assez grand et il n'avait pas de vêtements. Et en dehors de Abdullah bin Ubay, personne d'autre n'avait, on va dire, un qamis, un vêtement qui pouvait entrer sur lui. Et donc, puisqu'il a fait ce ihsan, c'est-à-dire qu'il a donné son qamis à un des membres de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son oncle, c'est pour ça, en récompense, on va dire, en contrepartie de ça, même si ça n'allait pas changer son sort, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc accepté de faire la prière mortuelle, la salat janaza, sur le corps donc de Hazrat Abdullah bin Ubay bin Salul. Mais bien sûr, comme on a dit, après la révélation de ce ayat-là, de ce verset-là, Allah tabarak wa ta'ala a interdit, et donc aujourd'hui cela n'est plus permis. Troisième chose qu'on peut mentionner également à travers un autre ayat du Coran Sharif, on a vu que lors de l'expédition à la Ghazwa de Tabouk, il était farz, il était obligatoire de quitter et de partir. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il veut nous faire comprendre également qu'en temps général, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il nous dit فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Que pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Et Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, ici il nous parle de quelque chose d'important. C'est quoi? C'est l'étude et la quête de la science et de la religion. Et il nous dit que dans la shari'at, dans les ahkam, c'est-à-dire dans les ordres, vous avez certaines choses qui sont, en général on dit farz, c'est-à-dire qui sont obligatoires. Et dans ce farz-là, qu'on dit en général, il y a deux types également. Il y a un qu'on appelle farz-e-ayn, ça veut dire que c'est obligatoire pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes. Et il y a un autre type qu'on appelle farz-e-kifaya. Et farz-e-kifaya, ça veut dire quoi? Que si une partie de la population va faire cette action, alors tous les autres composantes de cette population-là, ils seront, on va dire, déchargés de cela. Par exemple, pour la salat de janaza, s'il y a quelques personnes qui vont participer à la salat de janaza, alors toutes les autres personnes, ils n'auront pas à faire cela. Et à travers ce verset-là, Allah tabarak wa ta'ala nous dit, pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Hazrat Mufti Rafi' Uthmani Dama Barakatuhum était venu dans la madrasa d'Arum Azadville une fois, et il avait fait le bayan là-dessus. Il a repris les termes de Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, qui sont très intéressants et importants dans Ma'arif al-Quran, à la page 489, dans le volume 4, surtout pour l'étude et la quête de la religion. Et il dit que même apprendre sa religion, ça c'est quelque chose qui est farz et ayn. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais avant d'aller plus loin, il dit, après il va expliquer, il y a deux catégories, c'est-à-dire il y a une partie de la religion qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre. Et il y a une autre partie, c'est pour certains d'entre nous, par exemple les ulama, les muftis, etc., etc. Ça, c'est farz et kifaya. Donc, quelle est cette partie qui est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre, qui est farz et ayn? Ça veut dire que de la même manière que de faire la salat 5 fois par jour, c'est obligatoire, d'apprendre cela, c'est également obligatoire comme ça. C'est quoi? Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » que la recherche de la science, c'est une obligation sur chaque musulman. Et même si le mot « muslimatin », c'est-à-dire « musulmane » n'est pas mentionné, le sens, il est sahih, ce n'est pas de la hadith, mais en tout cas, c'est valable également pour les dames également. Donc, Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi, il dit « Farzi'ain, c'est quoi ?» Har musulman mard wa aurat par farze ke islam ke aqaid sahiha ka ilm hasil kari, les croyances qui sont correctes, taharat najasat ke ahkam, la pureté, la propreté et les impuretés, namaz, la salat, rosa, le jeûne, tamam ibadat du shariat ne farz wa wajib qarar dihe un ka ilm hasil kari, tous les actes qu'Allah Ta'ala il a rendu obligatoires. Le jeûne, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour moi de connaître les règlements qui sont liés au jeûne. La salat, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour moi de connaître ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il veut. Et ce n'est pas tout. Dintizon ko haram ya makruh qarar diyahe unka ilm hasil kare. Ce qu'Allah a interdit ou il a déconseillé également. Et maintenant, Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi dit, celui sur qui la zakat est faraz, il a le nisab, alors pour lui également il est obligatoire de connaître les masaïls qui sont liés à ça. Celui qui va faire le hajj, alors où ce qui est lié farz et ayn hai ki hajj ki ahkam wa masaïl ma'loum kari. Si tu vas faire le hajj, il est obligatoire pour toi d'apprendre comment on va faire le hajj. Si tu vas faire le commerce, alors il est obligatoire pour toi d'apprendre comment on fait le commerce. Si tu vas te marier, alors il est obligatoire pour toi d'apprendre quels sont les règlements qui sont liés au nikah, au mariage, et également aux règlements qui sont liés au divorce. Donc on apprend que chaque action qu'on va faire, il est obligatoire pour moi d'apprendre cela. En plus des obligations qu'Allah Ta'ala il a mentionnées dans les piliers de l'islam. Ensuite, il y a un autre degré, ça c'est farz et kifaya, c'est quoi pour les ulama, etc. Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi, il dit que, par exemple, de connaître tous les ahadiths mubaraka, le Coran, les traductions, les opinions des sahaba, des tabi'in, etc. Rahimallah, radiyallahu anhum, ça c'est un autre degré, on va dire. Donc ça c'est quelque chose qui est également important. À chaque fois qu'on doit faire, on va faire une action, alors il est obligatoire pour nous d'apprendre ces actions-là. Ensuite, concernant les péchés, on avait vu ça, alhamdulillah, dans le bayan, pardon, d'hier. Allah tabarak wa ta'ala dit un moment: Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets. Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi dit également que nous, on doit également faire attention à cet amour pour le dunya, c'est-à-dire cet attachement d'avoir dans le cœur. Et Mufti Taqi Osmani, damat barakatuhum, à un endroit, il explique que Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il y a 4 types de personnes. Et il distingue 2 choses. Il distingue ce monde, c'est-à-dire on peut avoir ce monde, on peut avoir de l'argent, et l'amour de ce monde. Et il dit qu'il y a une première catégorie de personnes qui n'aiment pas ce monde, et qui n'ont pas, pardon, qui n'ont pas eu ce monde, c'est-à-dire ils n'ont pas eu de l'argent, etc., et qui n'aiment pas ce monde également. Une deuxième catégorie de personnes qui ont eu de l'argent, mais qui ont également l'amour de cet argent-là, de ce monde-là. Il y a une troisième catégorie de personnes qui, ils ont eu de l'argent, mais ils n'aiment pas cet argent. C'est-à-dire, c'est pas dans le cœur, c'est dans la poche. Et une quatrième catégorie de personnes qui n'ont pas eu ce monde, mais ils ont l'amour pour ce monde-là. Et il dit, quand il explique ça, que ça c'est la pire des 4 catégories. C'est-à-dire non seulement il n'a rien eu, mais en plus il a le désir pour avoir ça. Khasirat dunya wal akhirah. C'est-à-dire ni dans ce monde il a eu, et ni dans le akhirat il a eu ça. Donc ça c'est un péché également qui est dangereux, qu'il faut faire attention par rapport à ça. Ensuite on peut mentionner également comme qualité, Inch'Allah, c'est quoi? C'est à travers ce verset-là, « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Allah تبارك وتعالى il parle de ces gens qui ont ces qualités là, de ces gens lorsqu'ils sortent dans le chemin d'Allah, mais on peut également inshallah appliquer, c'est-à-dire c'est une chose qui doit nous appliquer à nous tous. At-ta'ibun, ceux qui demandent, ceux qui se repentent, qui demandent pardon à Allah. Al-abidun, ceux qui adorent Allah tabarak wa ta'ala. Al-hamidun, ceux qui évoquent les louanges, ceux qui louent Allah tabarak wa ta'ala. As-sa'ihun, en général, il traduit ça par quoi? As-sa'imun, c'est-à-dire ceux qui jeûnent, ceux qui gardent le rosa. Al-raki'un, le ruku. As-sajidun, ceux qui font le sajda, qui se prosternent. Al-amiruna bil-ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, les gens qui appellent vers le bien et qui interdisent le mal. Wal-hafizuna li-hududillah, et les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils observent les lois d'Allah. Et hudud, ça veut dire les limites qu'Allah tabarak wa ta'ala il a fixées. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il nous dit quoi? Que à travers cela, cette dernière phrase là, c'est-à-dire al-hafizun al-hududillah, ça veut dire quoi? Que ça c'est un peu le résumé, si vous voulez, de toutes les autres qualités qu'il y a eu avant ça. C'est-à-dire que dans chaque chose, dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos pensées également, on doit garder à l'esprit la limite qu'Allah tabarak wa ta'ala